Voilà, bienvenue à tous. On va commencer tout de suite, parce que nous attendait déjà depuis un petit moment. On accueille aujourd'hui Monique Weiss, qui est chercheuse au FNRS, professeure à l'Université libre de Bruxelles et docteur en philosophie et lettres. Elle s'intéresse surtout au rapport entre religion et politique. Et aujourd'hui, on l'a invitée pour nous parler de la critique des religions par les Lumières allemandes. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet-là dans une réunion sceptique? Simplement pour avoir un horizon un peu plus large. Et puis il faut se rappeler de la devise des Lumières, hein, peut-être on aura l'occasion de le rappeler, puisque c'est une devise formulée par Emmanuel Kant qui disait « Ose savoir, ose te servir de ton propre entendement ». Et il entendait par là, il voulait mettre l'accent sur l'importance de la connaissance pour libérer les gens de toutes les formes d'oppression, et il visait, entre autres, la religion, mais aussi avec une réflexion politique derrière. Et donc ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en savoir plus, parce que je vous avoue que moi, c'est des choses qui me tenaient à cœur pendant tout un moment, le rationalisme des Lumières, etc. Et petit à petit, j'ai laissé ça derrière moi, et j'ai fini par l'oublier, donc... Voilà, j'espère que vous apprécierez cette conférence concoctée pour vous.
Oui, mais ça mérite, parce que sans papier et tout, merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc on m'a demandé de vous parler des Lumières allemandes et de leur attitude à l'égard des religions, la critique des religions dans les Lumières allemandes. Alors c'est un sujet assez, enfin, qui semble assez particulier. Il faut savoir que bon, on a beaucoup écrit sur les attitudes des Lumières à l'égard de la religion, mais l'angle d'approche qui est très prédominant dans le traitement de ce sujet est celui des Lumières françaises, hein, surtout dans le monde francophone, évidemment, chez nous en France. Et donc, souvent, interroger les rapports entre lumière et religion revient à s'intéresser aux penseurs français du XVIIIe siècle qui ont critiqué, voire contesté l'influence à la fois spirituelle et politique, notamment de l'Église catholique, parce que c'est évidemment dans leur domaine, c'est l'Église catholique qui était prédominante, voire dominante, et son clergé, évidemment. Alors, pensez à des penseurs comme Voltaire, Diderot, des penseurs plus radicaux aussi comme le baron d'Holbach, un des premiers théoriciens de l'athéisme matérialiste. Et comme je l'ai dit, dans les pays francophones, donc ils portent naturellement le regard vers la France, on entend très peu parler des autres lumières. Et c'est peut-être particulièrement donc des lumières britanniques, écossaises, anglaises, mais aussi des lumières allemandes, dont je vais vous parler, des lumières italiennes aussi. Et des Lumières juives, évidemment, la Haskalah, hein, qui est notamment représentée par un grand penseur qui est Moses Mendelssohn. Et ce constat de désintérêt pour ces autres Lumières s'applique peut-être surtout à tout ce qui a trait au rapport à la religion et aux églises. Dans ce domaine-là, particulièrement, les Lumières françaises ont tendance à éclipser toutes les autres par l'importance des combats menés, évidemment, par l'urgence des causes défendues et par la qualité des écrits produits. Hein, les écrits de Voltaire, de Diderot, du baron d'Holbach, évidemment, sont d'une grande qualité et donc ont tendance à éclipser tout le reste. Or, ce rôle décisif des Lumières françaises ne doit pas faire oublier qu'il y a aussi d'autres auteurs qui ont écrit sur ces sujets. Dans d'autres contrées, et notamment dans ce que j'appelle les Allemagnes, en fait. Alors, évidemment, ces Lumières allemandes ne peuvent pas être réduites à cette figure qu'on a déjà évoquée, qui est celle d'Emmanuel Kant, ou Immanuel Kant, comme vous préférez, et qui est évidemment un personnage central de l'Aufklärung, des Lumières allemandes et des Lumières tout court. Rappelons que c'est donc Kant, comme l'a rappelé... On a déjà dit Dorian, que c'est Kant qui a donné la définition la plus limpide de ce que sont, de ce que doivent être les Lumières. Une définition qui est devenue un grand classique, aussi à cause de son caractère intemporel et universel. Alors la définition, elle est là. L'Aufklärung, les Lumières, c'est la sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage. Le courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Et donc l'appel sapere aude, donc ose savoir, ose te servir de ton entendement, et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Emmanuel Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» en 1784. Et Kant va expliciter cette idée quelques années plus tard, en 1790, dans la critique de la faculté de juger, notamment en rapport avec la croyance religieuse, qui, lorsqu'elle fait alliance avec l'irrationalité, devient pour lui ce qu'il appelle « superstition ». Donc c'est un terme évidemment très important dans les Lumières françaises et aussi allemandes. Et donc là, en fait, il écrit la première maxime, et celle, donc la première maxime pour lui, c'est penser par soi-même, et celle d'une raison qui n'est jamais passive. Le penchant à la passivité, et par conséquent à l'hétéronomie de la raison, s'appelle préjugé. Le plus grand de tous consiste à se représenter la nature comme n'étant pas soumise aux règles que l'entendement lui donne pour fondement, grâce à sa propre loi essentielle, et c'est la superstition. La libération de la superstition s'appelle les Lumières. J'ai préparé quelques exemplaires avec des extraits que je vous donnerai après, si ça vous intéresse, pour les relire après, les citations, ou même aller plus loin. Voilà, donc ça c'est déjà une base très importante, mais évidemment Kant est un penseur énorme, un penseur très important dans la pensée européenne, mais il ne doit pas non plus détourner l'attention d'autres penseurs moins connus, moins prolixes, peut-être moins novateurs, mais qui ont un peu préparé le chemin, qui ont apporté des contributions intéressantes à cette question des rapports entre les Lumières et la religion. La religion ou les religions, étant donné que, bon, surtout les Lumières de langue allemande, se développe dans un contexte multiconfessionnel. Donc c'est un contexte qui voit coexister plusieurs églises, plusieurs confessions, voire plusieurs religions. Et donc ces Lumières sont beaucoup moins centrées, dans le rapport à la question de la religion, sont beaucoup moins centrées sur l'Église catholique, et sur la critique notamment de tout ce qui est le clergé, la raison cléricale, que ne le sont les Lumières françaises. Alors j'ai mis ici quelques éléments clés de cet exposé, donc enfin, je voudrais vous parler, parce que j'ai envie de vous présenter certains de ces auteurs. Alors je sais bien qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails des textes, je vais évoquer certains d'entre eux. Je vais surtout veiller à replacer ces auteurs dans leur contexte. Je suis historienne, donc pour moi, enfin, les textes comme ça, lus dans un vase clos, de manière abstraite, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour moi, ce sont des textes qui sont nés à une certaine époque, qui s'expliquent aussi par leur contexte social, politique, intellectuel, et bien entendu, le cadre religieux dans lequel ils ont été écrits. Et donc, mon objectif est d'apporter un éclairage diversifié, nuancé, sur les relations entre les Lumières et la religion, et surtout ces autres Lumières, qui sont les Lumières allemandes. Alors, j'avais envie de vous parler aussi d'un historien qui a beaucoup apporté à la réception de ces Lumières allemandes, c'est Ernst Cassirer. Alors, c'est un peu compliqué de raconter toute sa vie, mais il faut savoir qu'il a écrit un ouvrage vraiment très influent, Das Zeitalter der Aufklärung, la philosophie des Lumières en français. Donc, c'est plutôt le siècle des Lumières, mais on a traduit la philosophie des Lumières. C'est un ouvrage qui est paru en 1932, mais à cause de la guerre, à cause de la fuite aussi d'Ernst Cassirer d'Allemagne, il est parti aux États-Unis. Cet ouvrage ne fut publié que beaucoup plus tard, en anglais en 1951, en français en 1966 seulement. Mais il a un retentissement international et il continue à irriguer la réception des Lumières, et surtout des Lumières allemandes, jusqu'à aujourd'hui. Et alors Ernst Cassirer, il a une vision à la fois rationnelle, mais aussi assez, assez particulière des Lumières, dans le sens où il accorde beaucoup d'importance à la religion, et il considère que ces Lumières ne sont critiques de la religion, mais quelque part deviennent elles-mêmes une nouvelle forme de religion. Parce que, et lui, en fait, il les voit aussi comme ça, parce que pour lui, les Lumières sont avant tout un mouvement d'opposition à toute forme de totalitarisme. Donc, une nouvelle forme de pensée qui englobe beaucoup de choses. Pour lui, il ne s'agit pas d'une opposition uniquement par les contenus de la pensée, mais aussi par les formes de la pensée, par la manière de concevoir et d'exprimer la pensée, puis de la mettre en action. Alors, je vous ai mis dans l'exemplier ce qu'il écrit, notamment sur la question de la religion. C'est fort intéressant de ce point de vue-là. Mais peut-être vous dire que Kassir, il identifie trois grands thèmes qui sont pour lui au cœur de la pensée des Lumières, donc trois thèmes qui sont en rapport avec la religion ou avec les religions que nous allons retrouver chez d'autres auteurs de manière adaptée à des degrés divers. Et les Lumières, évidemment, ils reprennent ces thèmes pour les critiquer, pour les réinterpréter, pour les replacer dans d'autres systèmes. Et ces trois grands thèmes sont des thèmes, en fait, qui hantent déjà quelque part l'histoire notamment du christianisme depuis des siècles. C'est le premier, c'est le dogme du péché originel, hein, l'idée d'un péché originel, et le problème de la théodicée, donc des questions théologiques et philosophiques qui renvoient à la notion de liberté et aussi de la notion de la responsabilité humaine. Et la théodicée, la question de la théodicée, c'est la question du mal. Et pourquoi est-ce qu'il y a le mal et quelles sont les causes du mal? Puis la deuxième grande question qui revient systématiquement, c'est l'idée de tolérance et la fondation d'une religion naturelle, hein, qui serait commune à tous les hommes et donc qui quelque part permettrait le vivre ensemble malgré les différences de dénomination. Et le troisième thème, c'est la relation souvent tendue entre religion et histoire. Ça, c'est un thème qui fait écho à l'interrogation plus large, hein, sur les rapports entre religion et raison. Puis on parle de l'idée que l'histoire est une discipline scientifique qui suit les raisons, les critères rationnels. Et donc là, évidemment, il y a souvent des tensions qui naissent entre ces deux approches. Et donc là, la question qui est sous-jacente, c'est celle du relativisme des vérités de la religion qui sont notamment relativisées par l'histoire. Alors, je vais pas revenir en profondeur sur ces trois thèmes, ils vont réapparaître, hein, de manière indirecte à plusieurs reprises. Mais je voudrais d'abord vous rappeler quelques éléments du contexte. Je vous ai dit que je suis historienne, et donc pour moi c'est important de savoir dans quel contexte naissent ces écrits, hein, sur la religion des Lumières allemandes. Donc quelques mots sur le contexte politique et religieux du Saint-Empire au XVIIIe siècle. Donc je parle de Saint-Empire ou d'Allemagne. En fait, ce sont tous les territoires allemands, hein, ou alors les territoires héréditaires des Habsbourg d'Autriche. C'est un vaste conglomérat. Justement, une des caractéristiques, c'est le très grand éclatement politique. Ce n'est pas un ensemble très, très centralisé, très structuré. C'est un ensemble de nombreuses principautés, de villes libres, d'enclaves territoriales, avec une volonté de centralisation politique de la part des empereurs, mais aussi avec des forces centrifuges importantes, surtout émanant des princes les plus importants, les princes électeurs et les autres princes territoriaux. Alors il y a une tension permanente entre le pouvoir central, impérial, et les particularismes régionaux. Il y a une vraie diversité religieuse dans ces territoires, qui est la conséquence des divisions religieuses du XVIe siècle, donc protestants et catholiques, luthériens et catholiques notamment. Et cette diversité religieuse, elle est instituée aussi, elle est garantie par un régime de coexistence relativement pacifique. Vous connaissez tous la paix d'Augsbourg de 1555, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une paix de religion qui, pour mettre un terme à plusieurs décennies de guerre de religion, reconnaît la confession luthérienne et donc reconnaît aussi un équilibre des forces entre les territoires catholiques et les territoires luthériens. Alors l'équilibre des forces, effectivement, biconfessionnel, luthérien-catholique, mais qui est très fragile, hein. Ce qui prévaut, en fait, c'est le principe, effectivement, de ce qu'on appelle le cuius regio eius religio. Donc, c'est le prince qui décide quelle est la religion de son territoire. Le prince décide, mon territoire est catholique, tous ses sujets doivent être catholiques. Mais en même temps, il y a beaucoup de variations dans cet équilibre des forces très, très fragile, qui est constamment remis en question. Donc, il y a quand même des conflits qui naissent et aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle. La plupart des terres sont donc monoconfessionnelles, ne connaissent qu'une seule confession, qui est celle du prince. Mais il y a quelques lieux qui sont biconfessionnels, certaines villes très intéressantes à étudier, comme Augsbourg, par exemple, où vous avez deux confessions qui coexistent de manière très, très quotidienne, en fait, et très, très, très proche. Alors, cette paix d'Augsbourg, elle a aussi, qui reconnaissait ces deux confessions, cette coexistence des deux confessions, elle a aussi reconnu un droit à l'immigration. Donc, elle permettait aux personnes qui ne voulaient pas se reconnaître dans la confession de leur prince de partir dans un autre territoire qui correspondait mieux à leur choix confessionnel. En même temps, il y a des minorités qui continuent à exister à l'intérieur des territoires. Donc, par exemple, dans les territoires protestants, vous avez des crypto-catholiques, des gens qui officiellement sont protestants, mais qui en secret restent catholiques. Donc, ce sont des réalités religieuses très, très compliquées, beaucoup plus compliquées que, par exemple, en France ou ailleurs. Hein. En réalité, on peut dire que ces territoires, ces Allemagnes, ne sont pas biconfessionnels, mais multiconfessionnels. Hein, parce qu'il y a les catholiques, les luthériens, mais il y a aussi les calvinistes, hein, qui est une autre confession qui s'est développée plus tardivement, qui a eu du mal à se faire accepter, puis finalement qui a eu quand même beaucoup de succès. Il y a les différents courants de ce qu'on appelle la réforme radicale, donc vraiment des courants beaucoup plus radicaux, les anabaptistes notamment, des spiritualistes, qui ne jouissent d'aucune reconnaissance officielle et qui sont difficilement tolérés, mais qui continuent à exister. Et puis, il y a dans le Saint-Empire d'importantes communautés juives, hein, dont le statut juridique est fort changeant et dont le degré d'intégration est très variable, toujours en fonction des velléités politiques et en fonction souvent du contexte socio-économique aussi. Donc, les juifs bénéficient de régimes de tolérance limités et conditionnels, dans beaucoup de territoires, mais ces régimes sont toujours susceptibles de changer au gré des circonstances, comme je l'ai dit, politiques et socio-économiques. Et la vraie tolérance civile, fondée sur l'idée d'égalité devant la loi, ne sera accordée qu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, notamment par l'édit de tolérance de Joseph II de 1781, qui en fait s'applique surtout de manière paradoxale à des territoires catholiques, les territoires des Habsbourg, en fait, d'Autriche, et notamment à nos régions aussi, et qui, quelque part, précède la politique de tolérance et d'émancipation de la Révolution française. Alors, pendant tout un temps, les historiens ont utilisé un terme qui a l'air un peu compliqué, qui est celui de confessionnalisation, pour décrire les sociétés de ces Allemagnes au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il voyait à l'œuvre dans ces sociétés un processus qui faisait que c'était la raison confessionnelle qui prédominait. Donc, c'était vraiment la confession qui forgeait les règles, les impératifs de tous les domaines de la société, qui avait tendance à éclipser un peu d'autres priorités. Et ça avait évidemment des répercussions politiques, sociales, culturelles très importantes. Donc cette idée un peu du tout confessionnel, on utilise la confession comme vraiment la moelle épinière en fait, hein, de la société, et cette notion, hein, utilisée par les historiens qui décrivaient les sociétés, qui décrivaient cette importance du confessionnel, est critiquée. Aujourd'hui on revient un peu là-dessus. Mais il faut quand même reconnaître que le Saint-Empire a vu se constituer effectivement au XVIe, XVIIe siècle des blocs confessionnels vraiment assez antagonistes, importants, plutôt repliés sur eux-mêmes, jaloux de leurs prérogatives et fondés sur une très, très importante, très étroite imbrication entre religion et politique. C'est ça la base, en fait, de l'idée de confessionnalisation, c'est que la politique et la religion ne sont pas du tout séparées, encore moins qu'avant. Hein. Et justement, cette raison confessionnelle va tout irriguer. Et ces blocs confessionnels se dotent aussi d'une identité religieuse forte, très différente de celle des confessions rivales, donc justement pour s'opposer, pour se distinguer des adversaires. Alors, à partir de la fin du XVIe siècle, hein, la réforme est passée par là, les guerres de religion sont passées par là, et le catholicisme a dû réagir. Il a d'abord réagi de manière négative, et puis il y a eu la contre-réforme, la réforme catholique, et à une revitalisation du catholicisme qui est importante, notamment dans les territoires catholiques de l'Empire. Les dogmes sont redéfinis, la hiérarchie est rendue beaucoup plus stable, la discipline ecclésiastique est uniformisée, hein, et les pratiques culturelles sont clairement codifiées dans ces territoires. Par contre-coup, malgré le développement de l'enseignement, qui est important, notamment à travers des collèges et des universités, la place accordée à l'examen critique par les individus, hein, de ces vérités qui fondent la croyance, est presque inexistante dans ces territoires catholiques. Et beaucoup d'historiens expliquent ça par le fait que dans ces territoires ne prévaut pas cette notion de libre examen qui a été promue par les protestants à travers la libre lecture des écritures, hein, qui était quand même promue par les protestants. On peut relativiser l'importance de cela, mais cette idée n'a pas du tout percolé dans les territoires catholiques. Et donc, dans les territoires protestants, donc le résultat, c'est que les Lumières allemandes sont surtout des Lumières protestantes. Dans les territoires protestants, l'agrandissement des territoires protestants s'est fait notamment par la sécularisation d'anciennes principautés ecclésiastiques catholiques, hein. Et là, le contexte intellectuel et spirituel, il est à la fois semblable et différent, parce que vous avez justement cette notion de libre examen qui continue à être affirmée, hein, par les autorités, y compris les autorités religieuses. Mais en même temps, il y a, à partir du XVIIe siècle, un raidissement. L'orthodoxie va imposer un carcan de plus en plus lourd. Et là, on voit naître en fait un mouvement qui va être important pour l'émergence des Lumières, qui est le piétisme, qui est un mouvement de renouveau, d'abord un mouvement de contestation des églises établies, et puis un mouvement de renouveau spirituel du protestantisme. Donc voilà, le renouveau du protestantisme à travers le piétisme, qui est porté par un besoin de plus grande authenticité, d'une piété plus personnelle, plus intérieure, plus affective aussi, hein, moins de dogmes, plus de sentiments, une religion du cœur, la quête d'un nouvel esprit communautaire aussi, l'importance de la communauté, vue comme la libre association d'esprits dans une foi vivante, enfin je cite un peu des textes, hein, piétistes. Et ce mouvement piétiste est d'abord le berceau, ou aussi une alliée des Lumières, mais par après il va devenir un adversaire redoutable des Lumières, parce qu'il va se raidir, il va créer une nouvelle forme d'orthodoxie, si vous voulez, d'orthodoxie piétiste, et beaucoup de ces penseurs piétistes vont devenir des adversaires redoutables des penseurs des Lumières allemandes. Notamment de tous ceux qui vont oser exprimer des idées plus subversives sur la religion. Alors, je vous ai parlé de cette coexistence entre territoire catholique et territoire protestant, d'un certain raidissement de camps confessionnels opposés. En même temps, il y a des échanges entre les catholiques et les protestants, notamment des échanges économiques, des échanges artistiques, universitaires, littéraires, donc ce qui permet quand même aux Lumières aussi de se diffuser de manière plus large. En même temps, il y a un fossé qui demeure. Par exemple, on constate qu'il y a très peu de mariages interconfessionnels. C'est quelque chose de très, 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 très rare encore. Donc, comme je vous l'ai dit, les institutions en fait, par lesquelles va passer l'innovation, qui est à l'origine de l'émergence des Lumières, se trouvent presque toutes ou toutes, quasiment toutes, en territoire protestant. C'est vraiment quelque chose que les historiens ont mis en évidence, qui a été parfois contesté, parce que ça semblait quand même un peu une vision réductrice des choses. Mais il est incontestable que les Lumières, en tout cas les Lumières philosophiques, sont essentiellement protestantes. Il y a des Lumières catholiques, notamment dans le domaine des grandes œuvres culturelles, hein, architecturales, picturales, musicales, évidemment. Mais pour tout ce qui concerne la philosophie et même la littérature, on doit dire que l'Aufklärung est surtout un phénomène protestant, enfin, qui provient de territoires protestants. Et qui a souvent des liens étroits avec les Lumières juives, à travers notamment cette figure très importante de Moses Mendelssohn, hein, qui devient un philosophe très, très en vue hein, dans la société du Saint-Empire à la fin du XVIIIe siècle. Je n'ai pas à m'apesantir sur lui parce que c'est un personnage en tout cas il y a beaucoup de choses à dire. Je vais revenir sur lui par après. Bon, peut-être juste vous dire qu'il a beaucoup participé aux efforts d'études comparées des religions, notamment judaïsme, christianisme, qui a évidemment permis de relativiser beaucoup de choses et donc quelque part était une piste de lancement pour beaucoup de penseurs. Il est aussi l'auteur évidemment de réflexions sur la tolérance religieuse et civile et d'appel à l'émancipation des juifs. Et il est ce qu'on appelle un philosophe populaire. Donc c'est quelqu'un qui voulait rendre la philosophie accessible à tous. Donc il a beaucoup écrit de manière très vulgarisée en fait hein, dans des revues pour justement cette mission de populariser la philosophie. Alors la lumière protestante, quelques éléments d'explication. Donc c'est dans les universités luthériennes et réformées, qui sont en plein essor au XVIIIe siècle, que vont apparaître des chaires et des enseignements nouveaux, en histoire et en philosophie notamment, qui vont être porteurs de ces lumières. Elles sont relayées par les toutes nouvelles académies des sciences, qui sont aussi créées, qui vont bouleverser le champ intellectuel. Alors, il faut aussi souligner l'importance capitale de la presse, hein, qui est en train de se développer à cette époque, pour les échanges et les débats d'idées. Hambourg, par exemple, et Göttingen, qui sont des villes universitaires, mais aussi des villes importantes pour la presse, développent donc une presse de revues et d'hebdomadaires dès le début du XVIIIe siècle, ce qui est assez tôt, comparé à d'autres pays européens. En Empire, il n'y a pas de capitale hein, qui centraliserait l'action des esprits éclairés. Et donc, ces journaux sont quelque part nécessaires pour favoriser le dialogue fructueux entre les différents centres des Lumières. Donc, on peut vraiment parler d'un polycentrisme hein, du Saint-Empire et aussi d'un polycentrisme dans le développement de ces idées nouvelles. Il y a Hambourg, il y a Göttingen, il y a Heidelberg, Francfort, Kassel, Wolfenbüttel, Dresde, Berlin, toutes des villes situées effectivement en territoire protestant. Alors certains historiens, évidemment protestants, n'hésitent pas à voir dans l'Aufklärung une seconde réforme, présente comme quelque part une seconde réforme qui serait venue parfaire la première réforme du XVIe siècle. C'est une vision très protestante. Hein. Mais voilà, qui a été reprise et qui est toujours présent dans l'historiographie. Alors, quels seraient les principaux facteurs de cette seconde réforme ? Alors, il y a d'abord un renouveau dans les études sur l'histoire et la philosophie, et aussi de la philologie. Ces renouveaux s'inscrit dans un moment de crise pour l'autre discipline, qui est la discipline phare, c'était la théologie, en fait, qui était jusque-là considérée comme la reine des sciences. La théologie est en crise à ce moment-là, et ce sont les autres disciplines, l'histoire, la philosophie notamment, aussi la philologie, qui vont finalement profiter de cette crise pour connaître un renouveau important. Alors l'histoire, la discipline historique, va s'émanciper de l'ancien cadre, hein, qui était celui des annales, et aussi de la géographie, évidemment, de la célébration notamment des saints, hein, c'est un peu un ancêtre de l'histoire, pour s'orienter vers une approche centrée sur la recherche, sur l'étude des sources, puis ce qu'on va appeler l'histoire des mœurs, puis ce qu'on va appeler l'histoire de la culture. Et la philologie, elle, ne voudra plus être une servante de la théologie. Jusque-là, c'était surtout ça. La philologie était au service de la théologie, pour l'étude des textes sacrés, hein, en langue ancienne. Et la philosophie va connaître un changement de paradigme encore plus radical, parce qu'elle va refuser de n'être qu'une étape préparatoire à la théologie, hein, ce qu'elle était jusque-là. Elle va rompre notamment avec toute la tradition scolastique, qui est celle qui prédominait depuis le Moyen-Âge, avec des soubassements qui étaient considérés comme incompatibles avec la pensée rationnelle et rationaliste. Et puis il y a évidemment l'apport aussi des sciences naturelles, notamment dans la foulée de ce qu'on appelle la révolution scientifique, qui va peu à peu toucher aussi les territoires du Saint-Empire. Alors, les notions clés de cette évolution des disciplines sont celles de doute, d'esprit critique, de rejet du mystère, de lutte contre les superstitions. Tout ça, c'est des termes qu'on retrouve dans les écrits des auteurs qui écrivent dans le cadre de ce mouvement des Lumières, notamment sur la religion. Le rapport entre la raison et la révélation est repensé, et tend à ramener la révélation à un rôle secondaire, un rôle transitoire aussi, à une fonction de béquille quelque part, dont l'utilité n'est que momentanée et qui est appelée à se dissoudre dans le progrès de l'esprit humain. Souvent on dit, voilà, les religions révélées, c'était juste un moment dans l'histoire, mais l'idée c'est d'aller plus loin, de se libérer de ces béquilles pour émanciper l'esprit plus en avant, pour que la raison humaine puisse prendre tout son envol. Donc, un esprit humain qui, pour ses penseurs, est appelé à connaître un perfectionnement continu et indéfini. Alors, on peut dire que dès leur début, les Lumières allemandes diffèrent des Lumières françaises par un contexte politique, spirituel, intellectuel, dans lequel elles naissent, hein, qui les façonne et qui est quand même très très différent. Qui, comme vous l'avez vu, est beaucoup plus éclaté d'un point de vue politique, religieux. Mais qui est aussi moins, enfin, qui fait qu'elles sont moins dirigées contre la religion en tant que telle, mais plus contre certains excès, ce qu'on considère comme des excès. Mais un de leurs buts aussi, c'est de sortir la pensée des cadres confessionnels rigides, qui sont justement un peu la conséquence de cette confessionnalisation, du fait que c'est la raison confessionnelle qui primait surtout. Donc les Lumières, elles revendiquent la sortie de ces cadres confessionnels considérés comme rigides et comme contraires au libre développement de la pensée. Alors un des premiers dont on peut parler, mais c'est Leibniz en fait. Et je vais peut-être pas m'attarder sur lui. Enfin, Leibniz est plutôt un penseur des pré-Lumières qui restait quelqu'un de très attaché à la religion. Mais pour lui, le plus important, c'était de trouver des solutions pratiques, notamment au fait qu'il y avait plusieurs confessions qui coexistaient et qu'elles devaient trouver un mode de coexistence, pacifique, enfin, un mode d'entente aussi. Et donc, son but, c'était de rechercher un mode d'organisation apaisé de la vie collective, une forme d'œcuménisme. Pour lui, en fait, la croyance en un Dieu unique, l'adhésion à cette idée du Dieu unique, représentait un lieu commun suffisant aux différentes confessions chrétiennes, il s'arrête aux confessions chrétiennes, pour leur permettre de vivre en paix, de s'entendre. C'est une idée qui va beaucoup développer. Alors il reste un penseur profondément religieux, hein. Gilles Deleuze dit que c'est encore un avocat de Dieu, parce que bon, dans tous ses écrits, il développe des idées qui vont tout à fait dans le sens de la sauvegarde de la religion, comme l'idée d'infini, l'idée que du plan de Dieu pour le monde, hein, cette notion très connue du meilleur des mondes possible, Dieu a créé le meilleur des mondes possible, qui a été très critiqué notamment par Voltaire dans Candide, la croyance de la supériorité du bien sur le mal, et l'adhésion aussi à ce postulat qui veut que, donc, selon Leibniz, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est aussi des notions qui sont assez connues. Et aussi une description qui va connaître un grand succès tout au long du XVIIIe siècle, c'est l'image de Dieu comme grand horloger. C'est aussi Leibniz qui développe cette idée. Alors il y a des contradictions profondes dans sa pensée, notamment qu'il promeut le développement des sciences naturelles, promeut le fait que ces sciences naturelles devraient s'appliquer des règles qui leur sont propres, c'est-à-dire les règles de la raison, et rejeter toutes les entraves qui empêchent ou qui freinent leur développement, et notamment les considérations irrationnelles de nature religieuse. Mais en même temps, Leibniz, il essaye de, d'écarter tout soupçon d'irréligion par rapport aux sciences naturelles, et par rapport à ceux qui s'adonnent aux sciences naturelles. Donc là, évidemment, il est dans une contradiction permanente. Et il s'en sort par une entourloupe intellectuelle qui est typique des Lumières, et plus particulièrement de Lumières allemandes, et d'une certaine forme de déisme, hein, qui va être un courant de pensée très répandu, à la fois dans le Saint-Empire, mais aussi en Angleterre et en Écosse, et même en France. Donc pour Leibniz, on peut dire que Dieu, quelque part, devient une catégorie des sciences naturelles. Il en fait une catégorie des sciences naturelles, dans la mesure où elle est censée maintenir l'ordre du monde, décrit et compris par les mathématiques et les sciences naturelles. Donc les sciences naturelles permettraient de connaître Dieu comme une catégorie scientifique, mais en même temps, évidemment, il y a des réminiscences très, très religieuses, traditionnelles dans cette idée. Alors un autre auteur qui n'est pas très connu, enfin, mais qui était très important à l'époque, c'est Christian Wolff. Il était professeur à l'université d'Halle, et bon, pour la petite histoire, il a été écarté de cette université, chassé de son poste par deux collègues piétistes qui le trouvaient vraiment pas très orthodoxe, et donc ils voulaient se débarrasser de lui, notamment parce qu'il avait écrit un texte qui s'appelle « Le discours sur la philosophie des Chinois » dans lequel il mettait Jésus et Confucius sur un pied d'égalité. Et par après, il a réintégré son poste grâce à l'intervention personnelle du roi de Prusse, Frédéric II. Il était très lié, évidemment, ce qui dans ce cas-là était une bonne chose parce qu'il a réintégré son poste, mais en même temps, beaucoup de ses penseurs avaient des allégeances évidemment fortes qui, quelque part, limitaient aussi leur liberté. Christian Wolff, en fait, était très bien connu en France au XVIIIe siècle, et il est très souvent cité, notamment dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un auteur qui est vraiment très fort cité. Et il a élaboré un système complet de philosophie des Lumières pré-kantiennes. Tous ses ouvrages revendiquent le patronage de la raison. D'ailleurs, ils portent le titre commun de « Pensée raisonnable ». Ce sont aussi des textes qui sont écrits en allemand, ce qui est important à l'époque, puisqu'il a parachevé le mouvement d'émancipation à l'égard du latin, langue par excellence de l'Église catholique, mais aussi de la scolastique, des idées anciennes. Donc l'importance de l'affirmation de l'allemand par rapport au latin. Et sa pensée, elle est structurée en quatre grandes parties, hein, qui montrent une certaine cohésion. Pourtant, on voit qu'il y a encore des parallèles à faire avec d'autres systèmes plus anciens. Donc premièrement, la métaphysique. Deuxièmement, la morale, l'éthique. Troisièmement, la vie sociale. Et quatrièmement, les rapports de l'homme avec la nature. Alors dans la première partie, évidemment, en ce qui concerne la métaphysique, on trouve encore un dogmatisme métaphysique important, hein. Et c'est d'ailleurs ce que Kant va beaucoup critiquer chez Wolff, parce que Wolff ne va pas du tout préconiser la rupture avec les présupposés d'un être suprême. Hein. Lui aussi a cette idée du meilleur des mondes possible créé par un être suprême, mais en même temps, il va vraiment mettre l'accent dans sa philosophie sur plutôt la conscience morale individuelle et sur l'action sociale de l'homme, ou plutôt sur le volet éthique. Quelque part, peut-être pour échapper aux grandes questions de métaphysique, on va plutôt mettre l'accent sur l'éthique. Et là, il va très loin. Par exemple, il défend la possibilité de fonder une éthique par les seuls moyens de la raison, sans aucune référence à la religion chrétienne ou à la religion même tout court. Bon, il va quand même élaborer une notion de religion naturelle qui serait liée à celle de droit naturel, hein, et qui c'est une notion qui est très tournée pour lui vers l'avenir, beaucoup plus que chez Leibniz. Et cette notion de religion naturelle est fort liée à l'idée de la perfectibilité des facultés humaines, notamment de la raison humaine. La raison humaine est appelée à devenir de plus en plus parfaite, hein. Et le fait que donc l'homme puisse concevoir le droit naturel, puisse concevoir les lois de la nature, montre aussi que il y a cette perfectibilité et est quelque part une preuve de l'existence de cet être suprême, hein, le fondement de la religion naturelle. Alors, l'État, pour Wolf, en fait, est une création de l'homme, sans référence au droit divin, au départ. Il doit servir à faciliter l'accomplissement de ce devoir de perfection. Donc, quelque part, on peut dire que c'est une forme de sécularisation de l'idée d'État. Mais en même temps, comme Wolf démontre que... Enfin, selon Wolf, la raison démontre l'existence de Dieu. Et donc, en fait, comme la raison démontre que Dieu existe, bah, l'État elle est obligé de demander qu'un culte soit voué à ce Dieu. Donc là, quelque part, bah, on arrive à une conséquence un peu paradoxale qui fait que l'État va devenir le garant de la moralité et de la piété extérieure, en tout cas des citoyens. Pas tellement de ce qu'ils pensent, mais en tout cas de leur manière d'agir et de se comporter en termes de moralité et surtout aussi de piété. Et donc l'État va devoir surveiller la moralité des sujets et le respect de la religion. Et là, Wolf a notamment s'est montré très critique à l'égard de toutes les formes déviantes de religion et aussi à l'égard de l'athéisme. Et dans le texte que je vous ai mis, c'est un extrait où il montre en fait qu'un athée ne peut pas être un homme moral, qu'il ne peut pas vivre une vie éthique justement parce qu'il n'adhère pas à cette religion naturelle commune qui est, voilà. Mais ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi chez d'autres auteurs. Et en fait, Wolf, il a toujours pris la défense, quelque part, de la religion chrétienne, notamment contre ce qu'on appelle les déistes, hein, qu'il a beaucoup combattu, enfin, c'est que lui, il appelle les déistes. Mais en réalité, aujourd'hui, les historiens des idées le présentent, lui, plutôt comme un des principaux théoriciens du déisme. Mais d'une autre forme de déisme plutôt à l'allemande. On parle de wolfisme, justement, parce qu'il est vraiment le principal représentant de ce déisme. Et ce wolfisme aura une influence énorme sur la génération suivante de penseurs. Presque tous les déistes allemands de la deuxième moitié du XVIIIe siècle seront en fait quelque part des wolfistes, si vous voulez. Alors, peut-être pour éviter la confusion, il faut peut-être interroger cette notion de déisme de manière plus générale. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce concept assez flou? En fait, quelque part, on retrouve là le problème fondamental que le christianisme et la révélation chrétienne posent à la raison humaine. Et ce problème va se poser avec une acuité nouvelle au XVIIIe siècle. Donc, on peut dire que dans le christianisme, la raison se voit confrontée à une vérité qui est censée ne pas résulter de ses propres efforts, mais qui prétend constituer au contraire une vérité appartenant à une raison étrangère, en l'occurrence celle de Dieu, hein, Dieu qui parle aux hommes. Alors ces vérités ont souvent trait à des réalités surnaturelles qui ne sont pas vérifiables, et en principe, il ne s'agit pas de trouver la vérité, puisqu'elle est déjà là, elle a été révélée. Il s'agit juste d'en dégager la signification. Mais comme les Lumières promeuvent l'usage de la raison, ben, lorsque la raison humaine se propose de dégager le sens de la révélation, elle va aussitôt se mettre en concurrence avec la raison divine. C'est inévitable. Et cette confrontation entre raison humaine et raison divine est inéluctable. Et comme le montre l'exemple des déistes anglais. En fait, les déistes anglais, ils ont vraiment inversé radicalement les rapports entre religion et raison. Ils ont multiplié les critiques contre la religion et ils ont exigé, quelque part, que la religion devienne conforme à la raison humaine. Ce qui était complètement inacceptable, évidemment, pour les tenants de la religion, pour les autorités religieuses. Et donc ça suppose l'autonomie totale de la raison, voire la supériorité de la raison par rapport à la révélation, et notamment par rapport à l'autorité religieuse qui est garante de la révélation. Donc c'était complètement inacceptable pour les autorités religieuses, et donc ça conduit au conflit. Alors les Allemands, ils ont été beaucoup moins loin finalement dans cette réflexion, et donc si on regarde les spécificités de déisme à l'allemande, on voit que ces idées des déistes anglais, notamment de Hume, ont très peu, ont trouvé très peu d'audience, en tout cas tardivement, dans les États allemands. Avant Kant, il n'y a presque pas eu d'irrigation de ces idées, ou alors elles étaient connues, mais justement pour être rejetées catégoriquement. Et donc les critiques à l'égard des contenus même de la foi restaient très prudentes et très mesurées. Elle s'est limitée en général à des attaques contre les dogmes les plus inacceptables, hein, comme le dogme de la, du péché originel, hein, de la chute originelle, qui était remis en question au nom de la question du libre arbitre. Alors certaines remises en question concernaient aussi les traditions religieuses considérées comme superstitieuses, mais en même temps ces traditions étaient déjà remises en question par le protestantisme depuis 2 siècles, notamment le culte des saints, enfin les reliques, les miracles, hein, tout ça c'était déjà critiqué avant. Donc ces critiques ont été amplifiées par les Lumières, mais les contenus même de la foi, le contenu même de la révélation ont été très peu critiqués. Notamment une question qui a été quand même fort critiquée en France et aussi dans les déismes anglais, celle de l'immortalité de l'âme, a été très peu abordée par les déistes allemands. Cette notion résistait parfaitement aux critiques fort limitées émises par les penseurs allemands. Et donc, évidemment, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'est cette situation de grande modération et donc de décalage par rapport à la lumière, notamment par rapport aux lumières françaises, résulte évidemment d'un contexte religieux, intellectuel, politique et social fort différent. Alors, je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que, enfin, je l'ai déjà un peu souligné, c'est que beaucoup de philosophes étaient des fonctionnaires des États territoriaux, fonctionnaires au service du prince. Et donc, ils entretenaient une relation particulière, en partie intéressée et en partie de dépendance avec les autorités politiques et avec la religion chrétienne que ces autorités politiques utilisaient pour fonder leur pouvoir. Donc, évidemment, il ne s'agissait pas de remettre en question la main qui vous nourrit quelque part et les idées qui fondent le pouvoir de la main qui vous nourrit. Et donc, Wolf, évidemment, était un défenseur du despotisme dit éclairé du roi de Prusse. Il ne s'est pas du tout opposé, par exemple, à la transformation de l'appareil administratif prussien en une forme de police des mœurs et de la piété très, très, très développée. Il y a un autre élément aussi, c'est que ces penseurs travaillaient beaucoup dans les universités allemandes, notamment les universités protestantes, très dynamique au XVIIIe siècle, où les sciences naturelles se développaient, où l'histoire connaissait un essor et la philosophie aussi, mais en même temps, à partir des années 1740, la théologie revenait en force. Elle avait connu une crise, mais là, elle ressortait finalement de cette crise, et elle, notamment avec le mouvement des nouveaux théologiens, qui, pour écarter toute forme de critique, enfin pour en tout cas, contourner les grandes questions, qui fâche, se concentrait en fait sur la philologie, aller récupérer quelque part la philologie à nouveau comme une servante et aller se concentrer sur la critique philologique des textes sacrés pour escamoter pendant plusieurs décennies les enjeux de fond de la question religieuse. Alors il y a autre chose qui est très important pour comprendre ces lumières allemandes et notamment les déistes allemands, c'est la méfiance profonde que suscitent les œuvres de Spinoza, hein, les œuvres de Spinoza, notamment l'éthique, qui commencent à circuler à ce moment-là et qui sont vraiment considérées comme des œuvres panthéistes, voire athées, qui font très peur, en fait, qui sont un peu comme un spectre qui fait peur à tout le monde. Et en Empire, en fait, la notion d'un lien indéfectible, d'une identification entre religion et moralité, religion chrétienne et moralité, ou religion naturelle et moralité, va rester très bien, vraiment fort ancré dans les mentalités, hein, et va permettre de rejeter le spinozisme, en fait, cette idée de... les idées de Spinoza, notamment celle de l'éthique. jusque dans les élites intellectuelles les plus éclairées. Donc, beaucoup de penseurs, enfin, presque tous les penseurs des Lumières allemandes, dans la lignée de Wolf et du wolfisme, vont rester très, très hostiles aussi au matérialisme athée prôné par un baron d'Holbach, par exemple, en France. Et par exemple, Moses Mendelssohn, dont je vous ai déjà parlé, va publier vraiment une mise en garde contre ce qu'il considère comme l'agressivité des attaques contre la religion par les Lumières françaises. Et il dit « Trop de radicalisme peut avoir un effet contraire à celui recherché et il craint que ça va raviver à nouveau la superstition. » Donc le fait de trop critiquer la religion va pousser les gens à nouveau dans les superstitions les plus combattues, en fait. Et c'est un avis qui est très largement partagé par ses contemporains. Alors, il y a un auteur, est-ce que j'ai encore un peu de temps?
Oui,
ouais, encore un peu. dont je voulais vous parler, qui est important, qui était un peu assez atypique. C'est un disciple de Wolf, mais en même temps, c'est un disciple tout à fait remuant, hein, qui s'appelle Hermann Samuel Reimarus, et qui va aller bien plus loin, en fait, dans la critique de la religion que son maître. Donc, c'est un auteur très important, mais qui n'a pas eu, évidemment, le succès... De succès à son époque, parce qu'il était complètement en dehors du cadre, hein, que je viens de vous présenter. Donc, il a suscité beaucoup d'opposition, notamment de la part de ces nouveaux théologiens, hein, qui vont chercher à monopoliser le débat sur la question religieuse. Alors, il n'a presque rien publié de son vivant, mais il est connu à travers... parce qu'il est à l'origine de ce qu'on appelle la querelle des fragments, la plus importante dispute théologique et philosophique dans le Saint-Empire au XVIIIe siècle. Et c'est là qu'on va voir apparaître un autre auteur, qui est Gotthold Ephraim Lessing, hein, qui est surtout connu pour ses pièces de théâtre, un auteur capital des Lumières de langue allemande. Et alors, Reimarus est aussi un philosophe populaire, un peu comme Mendelssohn, donc il essaie de rendre la philosophie plus accessible, et c'est un chantre de la religion naturelle, d'une religion naturelle bien plus déchristianisée que celle de Wolf, par exemple. Il va défendre cette religion naturelle, d'un côté contre le panthéisme de Spinoza, il va dire non, je ne suis pas spinoziste, et aussi contre le matérialisme, notamment de Lamétrie ou de d'Holbach, il va dire non, je ne suis pas matérialiste. Donc, en même temps, il va proposer une forme extrême de rationalisme théologique, enfin, je sais que c'est il y a une contradiction là-dedans, mais lui, en tout cas, il le présente comme ça. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre la théologie et la religion naturelle, parce qu'il nie radicalement toute révélation surnaturelle. Donc la théologie, quelque part, elle est une science qui doit permettre de connaître la religion naturelle. Elle ne peut pas se limiter à connaître pas se limiter à la révélation, hein, le texte révélé, c'est une discipline beaucoup plus large, donc il a une conception plus philosophique, en fait, de la théologie. Alors il va exposer l'essentiel de ses idées dans un recueil, « Les vérités les plus éminentes de la religion naturelle ». Selon lui, il est absurde de penser que la révélation ait été réservée à une petite partie de l'humanité. Ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi. La révélation ne peut pas être vraie parce qu'elle ne concerne qu'une partie de l'humanité, les chrétiens, les juifs. Mais c'est pas logique que Dieu... Ce serait absurde si Dieu avait limité la révélation à une partie de l'humanité. Et pour lui, le seul miracle divin qui soit, c'est l'ordre divin merveilleux de la nature. Donc c'est en étudiant la nature et son ordre qu'on va connaître Dieu, en fait. Donc il ne va pas du tout accorder de crédit au témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il va considérer l'un et l'autre comme un assemblage de récits interpolés. Les dogmes, il va considérer qu'ils ont été ajoutés par l'Église à la religion naturelle, notamment le dogme de la Trinité, qui n'a aucun fondement naturel, évidemment, et qui est au cœur de la foi chrétienne. Donc ça, évidemment, ça va susciter pas mal de problèmes à Reimarus. Et donc, pour lui, aucune prétendue révélation ne doit céder le pas sur la religion naturelle. Alors, Il a très peu publié, comme je vous ai dit, mais à sa mort, il, en 1768, il lègue un volumineux manuscrit à, d'abord à son épouse, et puis après, ça va se retrouver dans une bibliothèque ducale importante à Wolfenbüttel. C'est donc un recueil qui s'appelle « L'apologie ou défense des adorateurs raisonnables de Dieu ». Et Lessing, donc, qui est bibliothécaire dans cette bibliothèque, et qui bénéficie d'un privilège, le privilège du bibliothécaire, c'est de publier les manuscrits de son choix. Et il va publier ces manuscrits-là. Évidemment, c'est un choix tout à fait courageux et tout à fait étonnant, hein, de publier cet auteur qui était déconsidéré. Et il va peu à peu publier des fragments de ce manuscrit de Reimarus. Alors un premier est intitulé « Tolérance pour les déistes » par un auteur anonyme en 1774. Puis un autre fragment en 1777, tiré des papiers de l'auteur anonyme sur la révélation. Et c'est cette deuxième publication qui va susciter un tollé d'indignation contre Reimarus et évidemment aussi contre Lessing. Reimarus, il est mort, hein, mais donc contre Lessing qui ose donc publier ce texte. Et en fait, ce texte souligne les limites géographiques de la religion juive et chrétienne, des religions juives et chrétiennes, en disant que voilà, ça concerne une petite partie du territoire sur lequel vit l'humanité, et conclut qu'une révélation faite à un seul peuple ne peut être considérée comme la révélation de Dieu pour toute l'humanité. Et donc ces limites géographiques sont aussi des limites historiques, hein, parce que Reimarus montre dans ce texte que les prophètes, Jésus, appartiennent à un univers mental tout à fait différent du sien, hein, de celui du XVIIIe siècle. Et donc, ça ne peuvent pas être des vérités universelles. Alors, il y a un troisième fragment qui paraît en 1778, et là, le tollé va être encore plus important. Et là, le titre du fragment, c'est les buts de Jésus et de ses disciples. Et dans ce fragment, Jésus est présenté non point comme le Fils de Dieu, mais comme un homme faisant partie d'un petit groupe de mystiques juifs, donc de manière très historique, en fait, hein, pour lesquels le monde touchait à sa fin, et aller faire place au royaume de Dieu sur terre. Donc, c'est quelque chose, une théorie sur Jésus qui a été développée par après aussi par les historiens. Les théologiens luthériens ne vont pas du tout aimer cette publication et vont vraiment lutter, vont déclencher une contre-offensive importante contre Reimarus. Mais bon, Reimarus est mort depuis 10 ans, donc surtout contre Lessing qui a eu l'audace de publier ces textes. Et il y a notamment le pasteur principal de Hambourg qui va interdire à Lessing de continuer à publier. Hein, il est interdit de publication théologique. Donc il ne peut plus publier dans le domaine de la théologie ou de la philosophie. Donc Lessing, à ce moment-là, il va retourner à la scène. Hein, il va dire que c'est sa chair de vérité à lui. Et il va écrire son œuvre la plus connue, qui est son drame Nathan le Sage, Nathan der Weise, qui est un drame philosophique, vraiment intéressant. Mais il va aussi répondre quand même à ses détracteurs, notamment par un texte qui s'appelle la Duplique, dans laquelle il fait l'apologie en fait du droit de publier sa quête de vérité. Parce que pour lui, donc il va développer toute une théorie là-dessus, que ce qui compte, ce n'est pas la vérité, d'avoir la vérité, mais c'est d'être en quête de vérité. Et vraiment, il va développer une éthique de la recherche de la vérité. Et en fait, pour lui, les notions de vérité et de mensonge, ou de vérité et de non-vérité, sont des notions fausses, hein, qui quelque part, falsifient l'activité de l'esprit humain. Il va refuser la conception spéculative de la vérité, comme s'il y avait une vérité qu'il faut la découvrir. Pour lui, cette conception spéculative doit être remplacée par une conception éthique. Qu'est-ce qui compte, c'est la recherche, la volonté de savoir, qui est plus importante que la possession du savoir, la possession de la vérité. Et pour lui, en fait, le meilleur des mondes est celui dans lequel la perfection ne cesse de croître, de gagner sur l'imperfection, comme la vérité gagne sur la non-vérité ou le bien gagne sur le mal. Une vision très, très optimiste en fait de l'esprit humain, qui va aussi développer dans un autre, dans son dernier ouvrage, qui est plutôt un ouvrage historique en fait, l'éducation du genre humain, un traité de 1777-1780, enfin publié en partie de manière posthume, je pense, si je me souviens pas bien. Et là, il développe cette idée de vérité qui était déjà au centre de la querelle des fragments. Et il va dire que finalement, les religions ne sont que des traductions variables du noyau rationnel de la religion. Donc lui aussi, il part de l'idée qu'il y a une religion naturelle et que cette religion naturelle s'est adaptée en fait à chaque époque en devenant une religion révélée, une religion positive. Et l'être humain, en fait, l'esprit humain passe par une initiation progressive à la vérité en passant par ces différentes phases, ces différentes révélations. Mais il postule que un jour, le progrès moral et intellectuel de l'humanité va faire qu'ils vont, se libérer de ces religions, parce qu'ils vont en fait accéder directement à la religion naturelle. Ils n'auront plus besoin de ces béquilles quelque part, comme on a déjà dit, pour connaître Dieu, hein, de la base de la religion naturelle. Donc c'est une vision très quelque part progressive et très progressive, hein, j'ai pas dit progressiste, progressive et optimiste, en fait, hein, d'une émancipation de l'esprit humain qui va toujours plus loin dans la connaissance. Et en fait, c'est un texte qui va pas connaître un très grand succès. Bon, c'est surtout après la mort de Lessing qu'on va en parler, mais de manière négative, parce que ce texte va être attaqué, on va le considérer comme athée, qu'on va considérer que Lessing est un athée, on va le décrier comme un vrai spinoziste. Il va y avoir toute une querelle autour de cette réception de cette œuvre, qu'on appelle parfois la querelle du panthéisme, parce que, par exemple, Mendelssohn va prendre la plume pour défendre son ami, hein, Lessing, en montrant qu'il n'est pas spinoziste. Mais c'était difficile pour lui, hein, parce qu'il a du mal justement à accepter cette théorie selon laquelle la révélation n'est qu'un stade pour accéder à une connaissance plus abstraite de la religion naturelle. Voilà, Immanuel Kant va aussi intervenir pour dénoncer toutes les positions en présence et pour montrer que finalement tout remet en question le principe même des Lumières, à savoir la critique. Alors, je vous ai pas parlé de Nathan le Sage, mais si ça vous intéresse, on peut revenir à ça. Après, je vous ai mis aussi un extrait, parce que c'est une pièce intéressante, parce qu'elle, souvent elle est interprétée comme une pièce pour la tolérance religieuse, mais en fait, quand on lit un peu plus loin, enfin, pas de manière trop superficielle, on voit que c'est plutôt la question de la vérité, de la recherche de la vérité, et le fait qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Si ce n'est dans cette quête de vérité qui est au centre de cette pièce. Alors peut-être juste pour un peu résumer, en fait, quelques conclusions, quelques éléments de conclusion, quand même rappeler, par rapport à l'attitude des Lumières allemandes à l'égard de la religion, donc l'importance des débats théologiques, hein, qui est beaucoup plus importante qu'en France, hein, où finalement la théologie c'est l'affaire de l'Église catholique, et puis les Lumières vont se dresser, vont être en dehors. Ici on est dans un même, quelque part, un même milieu intellectuel et religieux, et les débats théologiques ont un rôle important dans ces Lumières. Une grande modération dans la remise en question des dogmes, mais il y a aussi une certaine forme d'adogmatisme, hein, notamment par exemple chez Lessing ou chez Reimarus évidemment. Il y a l'importance de l'émancipation de la philosophie et de l'histoire par rapport à la théologie. Ça me semble très important, comme justement pour ce mouvement des Lumières. L'importance d'une histoire comparée des religions. On commence par les différentes formes de christianisme, confession, mais surtout christianisme et judaïsme. Justement à cause de la présence importante de communautés juives aussi, d'intellectuels, donc de cette communauté qui dialogue avec le... avec les intellectuels protestants, et une certaine forme de relativisme. Les auteurs qui écrivent que bon, le fait qu'il y ait qu'une partie de l'humanité qui soit concernée par ces révélations, ça montre que ça ne peut pas être la vérité, c'est une forme de relativisme. La promotion de la tolérance religieuse et civile, évidemment, dans un territoire où il y a une grande diversité confessionnelle. La méfiance à l'égard du déisme anglais d'un côté, du spinozisme et du matérialisme à la française en troisième lieu. L'importance vraiment de la religion naturelle, encore beaucoup plus que dans les Lumières françaises, en référence au droit naturel et à la prééminence de la raison. L'importance de la raison qui permettrait de connaître Dieu, de connaître la religion naturelle de l'homme. Alors il y a une vision idéaliste, hein, mais idéaliste et optimiste du monde et de l'humanité. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans toutes les Lumières, tous les différents courants des Lumières. Cette notion de progrès, notion d'émancipation... qui font que bon aujourd'hui on a peut-être besoin de s'intéresser à ces auteurs parce que c'est un peu quelque chose qui a été beaucoup remis en question par après et voilà. Alors une éthique de la rationalité et de la responsabilité, ça je vous renvoie à la citation de Kant, hein, de cette notion de l'émancipation de l'esprit et aussi la responsabilité parce que finalement si l'esprit est prisonnier, c'est par sa propre faute en fait, c'est parce qu'il accepte la soumission. Et la notion de quête du perfectionnement humain, qui est au cœur des Lumières allemandes, et ça c'est peut-être une spécificité, parce que dans les Lumières françaises et aussi dans les Lumières anglaises, on va plutôt parler de la recherche du bonheur individuel, plus que de la quête du perfectionnement humain en tant qu'humanité aussi. Hein. Donc regarder la collectivité, et peut-être moins l'individu dans cette quête du bonheur. Voilà, je vous remercie et je suis ouverte à vos questions ou remarques. Merci.